France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Sa série Empathie remporte tous les suffrages. On y parle maladie mentale et deuil, et pourtant on y rit, on y pleure aussi un peu. La scénariste et comédienne québécoise Florence Lompré sera mon invitée à partir de 13h. Le soin, la maladie et une caméra collée à son sujet. C'est le programme de la critique avec les films du jour L'intérêt d'Adam de Laura Vandel et Nino de Pauline Loquès. Vous écoutez les Midis de Culture et c'est l'heure de votre dose quotidienne. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Sandra Onana, critique à Libération, bonjour.
Bonjour.
Muriel Joudé, critique au journal Le Monde, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux. Mais avant de parler de ces films, avant toute chose, on a quand même voulu consacrer un temps de cette émission à Robert Redford, qui nous a quittés hier à l'âge de 89 ans.
Ready? I want to fight him. He'll kill us. Maybe. You want to die? Do you?
This is a major.
This is Joe Turner.
Identification?
My name is Turner. I work for you. Now listen.
Identify yourself.
What is your designation?
Condor.
All right. I'll jump first.
Nope.
And you jump first.
No, I said.
What's the matter with you?
I can't swim!
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Vous ne montez pas dans le train?
Non, je vais plus loin.
Loin? Jusqu'où?
Parler de l'ivoire à Barclay Cole. Voir le connaît.
Je suis la baronne Blixen.
Pas encore. Finch Hatton, Donny.
Ah ah, fit-il. Je vois bien clairement que le démon s'y connaît à ramer. Bon vent, bon vent.
Il y a des strophes qui sautent.
Oui, les strophes qui sont embêtantes. Bon vent, bon vent.
On va l'avoir dans la tête toute la journée, je pense, cette chanson. Vous aurez reconnu des extraits de Butch Cassidy et Le Kid, Les Trois Jours du Condor, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Les Hommes du Président, évidemment, et Out of Africa. Muriel Joudé, qu'est-ce que vous retenez, vous, de la carrière de Robert Redford, la carrière pléthorique?
Une sorte d'opposition entre... C'est un peu le problème des acteurs très beaux et des actrices très belles, c'est qu'ils s'égarent à Hollywood au bout d'un moment. Quand on est beau, on doit finir à Hollywood, on doit finir devant une caméra. Et je sentais, là, en lisant hier les notices nécrologiques, en voyant des interviews de Redford, qu'il aurait fait tout autre chose s'il n'avait pas été aussi beau. Et c'est une beauté, en fait, qui apparaît en 1960. J'ai regardé sa filmographie, il apparaît pile au cinéma en 1960. C'est à Hollywood, et qui est un moment vraiment qui est peut-être la décennie la moins passionnante de l'histoire du cinéma hollywoodien, parce qu'on est entre la mort d'un vieux monde, du classicisme, et l'arrivée, qui va arriver vraiment dans la fin des années 60, début 70, du nouvel Hollywood. Et Redford, il est au milieu, et il incarne une sorte de beauté wasp, d'une idée un peu conservatrice de la beauté, un peu lisse, peut-être pas très intéressante, et qui va être complètement décimée par l'arrivée du nouvel Hollywood, qui va réécrire l'idée de la beauté à Hollywood. Donc ça va être les Dustin Hoffman, les Robert De Niro, les John Cazale, les Harvey Keitel, ce qu'on va appeler les beautés ethniques, qui n'avaient pas droit de citer à Hollywood, et qui vont arriver. Et je pense qu'il a souffert de ça, d'avoir finalement, par sa beauté qu'il n'a pas choisie, incarné une idée d'Hollywood un peu conservatrice, un peu lisse, et en même temps, même si son apport dans les films n'est pour moi pas décisif, je pense qu'il a apporté quelque chose de très important presque en dehors des films, qui est d'une part ce qu'il a produit et ce qu'il a réalisé, et je pense que Les Hommes du Président, qui est un film vraiment qu'il a initié, voilà, il a acheté les droits du livre
sur le Watergate, oui, il voulait à tout prix le faire,
voilà, ouais. Toutes les idées géniales du film, c'est vraiment lui qui les apporte, cette idée vraiment que maintenant l'action à Hollywood, ça va être l'histoire de journalistes en bras de chemise qui vont boire du café et enquêter. C'est une idée de Robert Redford, et c'est une idée qui est encore court aujourd'hui dans le cinéma. Il y a plein de films qui reprennent ça, donc un génie quand il produit, quand il a des idées, et puis surtout, je pense qu'il a produit un moule qui est encore voilà vivace aujourd'hui. C'est l'idée de l'acteur progressiste, de l'acteur qui n'est pas qu'acteur, qui veut changer le monde, de l'acteur de gauche qui va essayer de créer une sorte de marge à Hollywood, voilà, avec Sundance et avec ses films, d'acteur d'intervention. Et alors, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Paul Newman va le faire en même temps, Warren Beatty aussi. Mais lui, c'est, je pense qu'il va radicaliser cette idée, et c'est une idée qu'on retrouve aujourd'hui avec les Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Ben Affleck, qui font exactement ce qu'a fait Robert Redford, c'est-à-dire de dire bah, en fait, je suis acteur, mais je ne suis pas hors du monde. Et pour moi, Redford, c'est ça, c'est une beauté qui est hors du monde, qui est sans âge, et une vie passée à dire bah, en fait, non, je participe de ce monde-là.
Et alors justement, le festival de Sundance, on s'en avait parlé rapidement, donc ce cinéma, festival de cinéma indépendant qu'il a créé dans sa bourgade à l'époque, hein, c'est ça, Sandra Onana, c'est vraiment l'exemple même de sa prise d'action sur le terrain.
Bah oui, c'est, on le connaît aussi comme l'apôtre du cinéma indépendant, qui s'est dit faut créer un sanctuaire pour cette économie du cinéma qui serait à préserver de oui, qui est en marge des studios, des super productions, et qui après a créé un archétype de ce qu'on a appelé après le film Sundance, donc le film sans phare, authentique, et qui raconte aussi quelque chose de lui, qui est un peu le film au cœur pur, une sorte d'humanisme comme ça, qui s'inscrit aussi souvent dans des grands espaces ou dans cette Amérique dont il a incarné, je pense, ouais, un romantisme de néo-cowboy des bourgades, des grands espaces éternels qu'il défendait en tant qu'activiste écolo, les rivières, les forêts. Et moi, j'aime bien cette idée que la beauté, c'était Pauline Kael qui disait ça, qui était cette critique à la dent dure du New Yorker, qui trouvait que c'était suspect tant de beauté, qui disait c'est alarmant cette blondeur, quoi, c'est trop suspect, ces dents blanches, cette mâchoire carrée. Et l'idée que la beauté implique des grandes responsabilités, effectivement, il annonce Brad Pitt, c'est l'idée qu'est-ce que je vais faire de cette beauté et de la mettre au service, effectivement, aussi de cette décennie des années 70, des thrillers parano qui digèrent la guerre froide, les entourloupes de la CIA, et qui de son duo avec Sidney Pollack où il va habiter ces thrillers effectivement qui dans la psyché d'un journaliste sont très forts, avec cette espèce d'assaise de l'enquête dans Les Hommes du Président, on épluche des archives dans une bibliothèque, etc.
On passe des coups de fil, voilà.
On passe des coups de fil et puis déjà l'idée d'un chevalier blanc, quoi, d'un justicier au service de la vérité, d'une beauté du contre-pouvoir aux États-Unis. Donc, il laisse quelque chose de ça.
Merci à toutes les deux pour ces quelques mots et vos souvenirs de Robert Redford. Moi, c'est un souvenir d'enfance, Robert Redford. Je voulais être Robert Redford, en plus d'être amoureuse de lui. On revient à l'actualité des sorties cinéma d'aujourd'hui. On commence avec L'intérêt d'Adam, deuxième film de la réalisatrice belge Laura Vandel. Alors, Adam est un petit garçon admis dans un service pédiatrique d'un hôpital public. On le découvre alimenté par sonde gastrique car il est en état de malnutrition avancée et carencée au point de souffrir de fractures. À ses côtés, sa mère, jouée par Anna Maria Bartolomei, et on comprend vite que c'est elle en fait qui refuse toute nourriture qui ne viendrait pas d'elle. Une mère toxique donc, mais une mère aimante. Troisième personnage, l'infirmière, qui va s'investir émotionnellement dans cette histoire. Et c'est Léa Drucker qui lui prête ses traits. On commence avec quelques mots rapides, Sandra Onana.
Quelques mots rapides. Moi, c'est un film qui m'accroche avec pas mal de résistance quand même sur ce système immersif réaliste, un peu post-Dardenne.
Muriel Joudé.
Moi, c'est, je pense, une idée du cinéma qui m'a jamais trop intéressée et dont là, je vois presque une sorte de phase terminale. Mais voilà, c'est du post-Dardennisme, un peu du jeu vidéo, et ça vient s'ancrer dans une tendance. Alors, j'allais dire du cinéma français, mais enfin francophone, puisque le film est belge, de réalisme administratif qui, moi, me fatigue.
On écoute la bande-annonce de L'intérêt d'Adam de Laura Vandel.
Moi, je m'appelle Lucie, je travaille ici dans cet hôpital.
Est-ce que ma maman, elle peut rester avec moi pour dormir?
La juge a accepté de vous laisser venir deux fois par jour pour lui donner à manger.
Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance.
L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et s'en sorte sans séquelles.
Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Je peux pas laisser tout seul.
Elle peut pas rester au service.
Tu sais comment ça peut tourner.
La mère d'Adam est toujours là, c'est normal.
Si
Si cet enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques.
Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer.
Une mère isolée, elle en perd totale de confiance et on l'aide pas, qui le fera?
Je me bats tous les jours, seule, depuis qu'il est né sans rien demander à personne.
Elle est dangereuse pour cet enfant.
Elle est en panique.
C'est pas notre problème.
Si, c'est notre problème, justement.
L'intérêt d'Adam de Laura Vandelsandra Onana, c'est le principe même de l'immersif qui vous a paru surfait.
Surfait, je sais pas, mais c'est vrai que en fait moi ça me questionne toujours sur en fait c'est une certaine idée effectivement de filmer quelqu'un qui déambule dans une journée sous tension tentaculaire, qui marche dans les couloirs et donc on filme un dos ou une nuque dans des couloirs, c'est un peu devenu le tic visuel de ce qu'est un film immersif naturaliste de cet acabit-là. Et moi quand je dis qu'il m'accroche, c'est que il me met quand même en face d'une puissance ou d'une sorte de sortilège du jeu réaliste des actrices, qui est presque une diversion parfois quand on est critique. On commence par féliciter le jeu des comédiennes, oui, parce que c'est presque la plus facile. C'est qu'effectivement, il y a une sorte de puissance de l'illusion. Ça, c'est comme dans la vie. Et il y a toujours cette impression que c'est le degré zéro d'appréciation du spectateur. Naïvement, la première chose qu'on apprécie dans les films, c'est que ça ressemble à la vie, et que la maturité du spectateur viendrait dans l'idée d'apprécier un jeu plus anti-réaliste, quelque chose. Voilà. Donc il y a toujours un truc suspect dans l'immersion. Et moi, ça m'interrogeait face au talent de ces comédiennes, et notamment Léa Drucker, qui impose en fait une sorte de calme à l'intérieur du speed d'une journée sous tension, de me dire qu'est-ce qui scotche comme ça et ce qui fait qu'on a mine de rien, on est embarqué et on se pose tout un tas de questions, et c'est aussi après la limite du film, parce que je suis pas sûre que ça tienne ses promesses. Et je pense que ce qui m'a plus gênée dans le film plutôt que le système d'immersion, c'est plus son système d'empathie, en fait, ce qui fait de l'empathie de cette infirmière. En fait, on sait qu'elle elle se met à défendre et faire du favoritisme envers cette patiente qui, en fait, commet une faute d'amour. Elle surprotège son enfant d'une manière qui est dangereuse pour lui. Et on comprend pas bien sur quoi se repose cette empathie, ce système de favoritisme qui fait que là où d'autres patients, notamment une famille africaine, on va appeler les services sociaux et se méfier un peu de comment ils traitent leurs gosses, elle, on lui passe un peu tout. Et moi, plus j'étais devant le film, plus je me disais, est-ce que c'est le sujet du film, c'est la crise de l'hôpital public où on ne peut plus faire de soins individualisés, donc ça rompt le système d'égalité envers les patients et ça fait qu'on accorde des privilèges, ou est-ce que c'est pas reconduit par le film dans cette espèce de fascination par Anna Maria Bartolomé, qui est vraiment une madone de Renaissance, botticellienne, et à qui on a effectivement envie de tout passer.
Mais en plus, cette question-là n'est pas abordée dans le film, elle n'est pas questionnée, même pas par l'encadrement de l'infirmière.
Elle n'est pas questionnée, et en même temps, il y a quand même des petits à côté. On va voir Léa Drucker, infirmière, prendre des appels. On comprend qu'elle est aussi mère célibataire, je crois. Il y a quand même quelque chose qui serait d'une empathie dans de maternité, un rapport entre femmes comme ça, qui se comprendrait et qui partagerait quelque chose de cette expérience de la maternité difficile, et que ça les connecterait. Mais c'est pas abordé explicitement, ou c'est pas surligné en tout cas.
Muriel Joudé.
Oui, je suis totalement d'accord avec Sandra. Il y a un problème à endroit d'empathie, c'est-à-dire que comme si on regarde bien, parce que je pense que le film joue sur cette envie de cette sorte de pornographie du réel, où vraiment Anna Maria Bartolomé va, il y a de la mort, il y a des procédures, les caméras boivent les visages et tout ça. On est vraiment là pour ça. On est tellement là pour ça que le film dure 1h13, donc il a vraiment le souffle court. Donc c'est vraiment qu'il est arrimé à ce réalisme là. Mais sur déjà la question de l'empathie, c'est-à-dire que quand même, si on fait le bilan, on a quand même un film qui se met du côté d'une mère maltraitante. Avec une infirmière qui aussi prend le parti de la mère, c'est-à-dire qu'il y a un gosse qui va potentiellement crever. Je trouve ça très bizarre, il y a un truc qui n'a pas été questionné à cet endroit-là. Après, je trouve ça aussi bizarre d'insister, de mettre deux femmes du côté de la maltraitance. Je trouve que bon, il y a d'autres images à produire quand on filme ça. Et puis, je pense que je parlais d'un réalisme administratif, parce que Pour moi, il y a vraiment le film est complètement fasciné, comme tous ces films. Je pense à Je verrai toujours vos visages, ou même la fin de l'histoire de Suleiman, l'entretien avec cette super actrice qui a eu le César. Je suis désolée, j'oublie son nom.
Enfin, Nina Meurice.
Voilà, Nina Meurice. Il y a vraiment cette fascination pour les blouses blanches, les bruits de clavier, les bruits de stylo, les froncements de sourcils devant les écrans, les portes qu'on bat. Enfin, pour moi, le film vraiment fonctionne avec ce folklore-là, qui est assez fascinant à regarder. Moi aussi, j'aime ça, mais j'ai souvent l'impression que dans cette tendance-là du cinéma français, qui est vraiment une tendance lourde, hein, chaque semaine, ou en tout cas chaque mois, il y a des films qui nous montrent comme ça que dans la vie, il y a des administrés, et des administrateurs, il y a des soignants, il y a des patients, il y a des gens qui ont besoin des autres pour vivre leur vie et s'en sortir. J'ai l'impression que ce goût de la procédure et de l'administration et des institutions publiques, voilà, ce cinéma un peu carte vitale, dont fait partie aussi Nino au début, hein, remplace voilà, un monde existant, celui des institutions, met ce monde-là à la place d'un imaginaire et d'un travail purement cinématographique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Laura Vandel, ça l'autorise à ne pas regarder ses personnages, à ne pas faire un travail d'imaginaire, et je ne sais pas quel est son monde. En fait, elle a un monde qui est commun à plein de cinéastes, donc je ne sais pas quel est son style, quel est son monde, qu'est-ce qu'elle nous dit, puisque tout ce qu'elle pose dans son film la dispense d'un travail de cinéaste. Et donc j'étais très énervée par le film, parce que je trouve que là encore, dans l'histoire de Suleiman, ce que veut dire Boris Joskin, il y a un cinéaste derrière. Là, pour moi, il y a vraiment le remplacement d'un travail de cinéaste par un monde préexistant. Et je suis d'accord aussi avec ce qu'a esquissé Sandra sur... Il y a quand même un truc bizarre sur les patients qui sont quand même tous racisés. Enfin, il y a un truc comme ça où on a l'impression que l'empathie, la solidarité se fait entre stars. Et ça, c'est ce qu'on sent dans les films. C'est souvent que, en fait, il y a des stars qui prennent soin d'acteurs non professionnels, souvent racisés. Il y a un truc un peu qui n'est pas questionné. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est raciste. Je dis juste, il y a une cinéaste qui ne regarde pas ce qu'elle est en train de faire. Et moi, ça me pose problème.
Vous êtes d'accord avec ça, Sandra Nana? Pas de personnages caractérisés. On ne comprend pas ce qui les meut, on va dire.
En tout cas, sur ce que fait le star system, qui est un peu la loi du film bancable, il faut des têtes d'affiche pour porter ces films. C'est vrai qu'en fait, ça charrie du sens, peut-être à l'insu du film, effectivement, ou ça révèle, c'est soit un révélateur, soit l'inconscient du film. Mais non, sur les personnages, je sais pas. Moi, faudrait peut-être rappeler que Laura Vandel, elle avait fait un premier film remarqué qui s'appelait Un Monde. On parlait de c'est quoi le monde de la cinéaste, qui situait entièrement dans une cour de récréation avec des enfants, où elle s'était beaucoup inspirée de Récréation, de Claire Simon, et qui, c'est un peu cliché de filmer à hauteur d'enfants, qui était totalement dans l'idée immersive, presque bigleuse, à vue courte de la vie des psychodrames enfantins, du harcèlement scolaire, des jeux en récréation, qui était complètement hermétique aux adultes. Et déjà, à l'époque, ça posait des questions sur le système d'immersion presque cruel du film, sur où était son regard. Mais c'était impressionnant parce qu'on se disait, est-ce que le teen, quand même, ce qu'il y a de plus difficile, à commencer avec les enfants? Et donc, elle se revendiquait, d'ailleurs, on parlait des Dardennes, c'est une référence qu'elle citait elle-même comme un modèle. Évidemment, on fait du cinéma réaliste belge, c'est un leg, quoi. Et j'ai retrouvé un peu ce qui déjà avec un monde faisait un peu couac. Et c'est vrai que ça se situe dans ce flou du regard, dans le je pense que si on en revient beaucoup aux performances des actrices, c'est qu'elles nous permettent de nous accrocher à quelque chose d'assez admirable dans l'abnégation d'un rôle qui serait Léa Drucker, qui en fait et qui est une sorte de super-héroïne de l'hôpital public au départ, jusqu'à ce qu'on se dise qu'en fait c'est une complice, enfin que c'est une complice de l'irresponsabilité d'une mère maltraitante, etc. Et je sauverais aussi la fin du film, en tout cas, qui ne résout pas son conflit ni dans la punition ni dans la leçon, et je pense que c'était une tentative d'ouvrir de pas faire du didactisme, de pas nous inculquer une petite leçon de vie sur l'hôpital public, quoi.
C'était L'intérêt d'Adam de Laura Vandel.
12h-13h30, les midis de culture, Marie Laborie.
On enchaîne avec Nino, le premier film de Pauline Locquès. Nino, on va passer 3 jours, 3 nuits avec lui dans Paris. Il est en fin de trentaine et au début du film, alors qu'il pensait être fatigué, avoir mal à la gorge, Nino apprend qu'il souffre d'un cancer et qu'il doit commencer une chimiothérapie après le week-end. Cette annonce va bouleverser le regard qu'il porte sur les gens qui l'entourent et sur sa vie, évidemment. Nino est interprété ici par l'acteur québécois Théodore Pellerin et le film a reçu le prix Michel Dornano au dernier festival de Deauville qui récompense un premier film français. En quelques mots d'abord, Muriel Joudet.
Je pense que le film me cueille par une précision dans l'écriture, alors que je pense que je me méfiais beaucoup, notamment parce que je voyais un film à sujet, alors que je pense que c'est pas du tout ça.
Sandra Onana.
Je trouve aussi, c'est un film que j'ai trouvé très réussi, très finement écrit, et je trouve que sur la pente glissante du film de scénario qui serait trop bon élève et bien fléché, il réussit un peu ce que L'intérêt d'Adam ne réussit pas.
On écoute la bande-annonce de Nino.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Puis on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
C'est pas un...
Vous êtes jeune, donc prioritaire. Vous pouvez commencer dès lundi.
Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller...
Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie.
Faut que je parle un truc. Je dois commencer quelque chose pour...
Tu vas faire une transition?
Non, c'est pas ça.
Nino, le premier film de Pauline Locquès, Muriel Joudet, vous vous attendiez à un film à sujet, comme vous disiez.
Oui, je pense qu'à un moment, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est sur l'explosion des cancers chez les jeunes gens. Et en fait, pas du tout, c'est un prémisse. Le film, c'est super de prendre avec l'intérêt d'Adam, parce que vraiment, on est au début sur... ce truc de réalisme administratif, qu'ensuite on part vraiment sur autre chose, et je pense que vraiment le film est reconduit quelque chose qui traverse une petite tendance comme ça du cinéma français, qui est la traversée de Paris, la traversée de la nuit, les rencontres nocturnes, enfin filmer en fait une ville qui est une sorte de réservoir inépuisable de rencontres, de hasards, et le film est vraiment sur ça, et vraiment sur les acteurs. Donc c'est pas un film de scénario, c'est vraiment un film d'acteurs qui va mêler des acteurs qu'on ne connaît pas, qui sont très forts et dont je n'ai pas noté les noms, notamment la jeune femme, l'amie d'enfance de Nino, avec des acteurs confirmés qui vont être là par petites touches. Donc il va y avoir Mathieu Amalric, il va y avoir Jeanne Balibar, William Lebgill, donc des acteurs que habituellement on paye bien, mais là ils sont par petites touches et ils sont presque dans l'arrière-plan. Et au premier plan, on va avoir des acteurs qu'on connaît pas ou qu'on n'a jamais vu et qui vont crever l'écran. Et je trouve que ce mélange-là, je vois vraiment Pauline Locquès s'amuser de mélanger les textures de jeu, et que Paris et ses rencontres sont pour elle une sorte de prétexte pour travailler le jeu des acteurs, et sur cette question aussi du, on peut penser au Feu follet en fait, cette question de la nuit qui est de la traversée du week-end qui est alourdie par l'échéance de la chimiothérapie, ça lui permet d'intensifier les rencontres en fait, et je trouve que tout ça est habilement à chaque fois que je voyais un écueil, un obstacle, un truc un peu facile ou une performance d'acteur, je me dis « Ah bah là, ça va être dur à jouer ». Le film, de manière vraiment très élégante et sophistiquée, contourne complètement tous ces écueils sans en faire trop et en s'en sortant souvent par une forme d'humour ou de malice. Et puis, il y a aussi évidemment Théodore Pellerin qui est superbement casté. Et là, c'est presque ce qu'on disait sur L'intérêt d'Adam, c'est à un moment dire « En fait, moi, mon premier film, ce sera avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. » Et moi, j'ai toujours tendance à penser que les acteurs, ça c'est vraiment une croyance peut-être, non professionnels. Les acteurs qu'on connaît le moins souvent jouent mieux que les stars. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve dans le cinéma français qui se confirme. Et là, on voit vraiment qu'il y a une générosité à vouloir mettre sur le devant de la scène plein de gens qu'on ne connaissait pas et que je trouve vraiment très juste. Moi, j'ai un problème souvent avec le cinéma français sur la justesse du jeu. Et là, je les trouve vraiment tous assez vraiment magnifiques. En plus, physiquement, c'est très varié. Donc, voilà.
Sandra Onana. Non mais c'est vrai, c'est dur pour Théodore Pellerin. Ce qui fait qui est assez fou, c'est que c'est dur d'être hyper présent quand on joue un personnage qui est absent à lui-même, qui est un peu absent au monde. Il joue les bêtudes, il se laisse trimballer par une journée, et donc restituer cette sensation de l'organique, de l'errance, alors qu'on sait que le scénario il est censé être orchestré, il organise des stations entre des personnages, donc on devrait pouvoir on sentirait la main de la cinéaste si c'était mal fait, et c'est pas du tout le cas. Et c'est aussi un bel essai sur l'idée de l'étranglement. C'est un personnage qui découvre qu'il a une maladie de la gorge et qui, tout au long du film, va pas arriver à sortir l'annonce à ses proches de ce qui lui arrive. Il y a aussi une double analogie, parce qu'on lui remet un échantillon pour s'inquiéter de sa descendance, de pouvoir faire des enfants plus tard. Il n'arrive pas à remplir l'échantillon. Il y a un double...
On lui demande de congeler, en fait,
de congeler son sperme. Sperme. Donc, c'est l'idée de ce qui ne sort pas tout au long du film. Et en effet, chaque fois qu'on croit qu'on sait ce qui va se produire, ça ne se produit pas. Ou alors, ça se décale. Par exemple, je ne sais pas, ce qu'on peut trouver parfois d'un peu coquet dans les films sur la maladie qui fuirait le dolorisme, ce serait l'excès inverse, qui serait la pudeur. Et donc, la pudeur, tout le monde adore ça. C'est l'espèce de politesse du désespoir, on va pas voir les gens s'effondrer, on va aller voir faire un petit mot d'esprit. Et donc la pudeur, elle posait aussi la question de, je sais pas, de la pudibonderie, est-ce qu'on allait oser aborder le corps, à quel point le corps allait exister dans un film qui parle quand même de la maladie qui guette. Et ça, c'est en fait, elle trouve comment faire, elle le distille. Par exemple, il y a une scène qu'il faut pas trop révéler, mais il y a une super rencontre, une scène dans une soirée avec une amie qui doit se faire une piqûre, et ça, par exemple, en termes de représentation même générationnelle, de reconnaissance d'une idée d'une génération de qu'est-ce qui se passe dans les toilettes des soirées parisiennes. Il y a des gens qui se piquent parce qu'ils boostent leurs hormones et qu'ils doivent congeler.
On a tous besoin de... Voilà, il y a un truc comme ça. C'est vrai, sur le corps trentenaire dans lequel je me reconnais.
Ouais. Et sur la déambulation dans Paris aussi.
Oui, c'est... Je voulais savoir la déambulation dans Paris. Qu'est-ce que ça donne? Comment elle filme Paris? Parce que bon, ça a été filmé quand même.
Bah ouais, sur le portrait de la ville, en tout cas, maintenant, c'est vrai que ça se voit dans les films français, on peut plus filmer Paris comme Clapiche dans les années 2000 avec Romain Duris et Juliette Binoche. Il faut que c'est le Paris qu'un touriste ne reconnaîtrait pas forcément. C'est plutôt la rive droite, l'Est parisien, presque périphérique. Et je trouve que le portrait de la ville, contrairement à ce qu'on disait sur la focale à très courte vue pour l'intérêt d'Adam, là, la ville existe comme un endroit quand même qui écrase un anonyme. C'est une ville où on est anonyme et où un individu se sent écrasé par ce qui lui arrive et noyé dans la masse. Et en même temps, la possibilité des rencontres, il y a quelque chose de très finement fait de ce point de vue-là, dans la déambulation, dans l'errance et dans les portraits.
Nino de Pauline Loques, les deux films dont nous avons parlé, sortent aujourd'hui. Muriel Joutier, Sandra Onana, merci beaucoup d'être venue dans les Midi de Culture nous éclairer de vos avis. Et vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Vous retrouvez toutes les références sur ces films sur la page des Midi de Culture.